France Inter, franceinter.com.
Essayez de quitter ce monde en l'ayant rendu meilleur que vous l'avez trouvé. Baden-Powell. Deux mille ans d'histoire. Il y a 100 ans, en juillet 1907, un général britannique, Robert Baden-Powell, entraînait avec lui 24 jeunes dans l'île de Brandsey, au sud de l'Angleterre. Ils allaient fonder le premier camp de l'histoire du scoutisme. Depuis longtemps, cet ancien officier de l'armée des Indes et héros de la guerre des Boers cherchait le moyen de pallier les insuffisances du système éducatif de l'Angleterre d'Édouard VII. Mais il ne pouvait imaginer que pendant 100 ans, dans le monde entier, plus de 500 millions de scouts allaient suivre les mêmes traditions et respecteraient les mêmes idéaux que Baden-Powell avait fixés aux 24 premiers scouts de 1907.
Que désirez-vous ?
Devenir scout de France.
Pourquoi ?
Pour mieux apprendre à servir Dieu et mon prochain.
Quelles sont les trois vertus principales du scout ?
Franchise, dévouement, pureté.
Quelle est la première obligation du scout ?
La bonne action quotidienne. Le scout voit dans la nature l'œuvre de Dieu. Il aime les plantes et les animaux. Le scout obéit sans réplique et ne fait rien à moitié. Le scout est maître de soi. Il sourit et chante dans les difficultés. Le scout est pur dans ses pensées, ses paroles et ses actes.
Confiant dans votre loyauté, nous vous admettons à prononcer la promesse des scouts de France.
Scout toujours !
Marine Digabel, bonjour.
Bonjour.
Alors cette chanson, beaucoup d'anciens scouts ou d'anciens guides comme vous la connaissent, c'est le cantique de la promesse, ce moment, on en parlera, par lequel on devient scout ou guide. Depuis 1907, puisque c'est il y a 100 ans exactement que Baden-Powell inventait le scoutisme, un anniversaire à l'occasion duquel vous avez écrit un livre, Scout, une piste pour grandir. Est-ce que c'est ça, au fond, la finalité du scoutisme, faire grandir les jeunes ?
Oui, tout à fait. Baden-Powell avait à cœur de former des jeunes qui s'engagent en tant que citoyens. Pour cela, il a développé une méthode pédagogique tout à fait originale et novatrice à l'époque, puisqu'il s'agissait de mettre les jeunes en situation d'autonomie, de responsabilité, de les faire vivre en équipe, par le jeu et dans la nature. Et c'est tout ça qu'il a mis en pratique lors du premier camp de 1907. Loin d'imaginer à l'époque que la proposition scout allait rencontrer un tel succès.
Il y avait aussi la volonté de pallier un peu les insuffisances, vous le dites, d'un système éducatif. Par exemple, ces premiers scouts, ces 24 premiers scouts de l'île de Brandsey, venaient de la ville. Il fallait, au fond, au contact du plein air qu'ils ne connaissaient pas, mais il fallait pouvoir faire en sorte qu'ils y aient accès.
Tout à fait. La Grande-Bretagne connaît à cette époque-là et dans toute la fin du 19e siècle des bouleversements sociaux considérables. Et Baden-Powell s'inquiète de la paupérisation de la jeunesse, en fait, de certains jeunes qui sont livrés à eux-mêmes. Donc c'est un peu pour ces jeunes-là qu'il fonde le scoutisme. Et les 24 jeunes qui l'emmènent camper viennent de différentes classes sociales. C'est donc pas du tout au départ un mouvement qui s'adresse à une élite, mais bien un mouvement qui s'adresse à l'ensemble de la jeunesse.
Alors quand il crée ce mouvement en 1907 avec ce premier camp, il est déjà célèbre. Vous le rappelez, il s'est rendu, il est devenu une espèce de héros en Angleterre pendant la guerre des Boers, Martine Digabel. Marine Digabel.
Effectivement, il est devenu célèbre à l'occasion du siège de Mafeking. Il a réussi en fait à tenir le coup, et ce siège a été l'occasion pour lui de tester une des intuitions qui a présidé à la naissance du scoutisme, puisqu'il a décidé d'utiliser les services des jeunes, hein, comme l'armée était un peu en manque d'effectifs et que tous les adultes étaient déjà utilisés ailleurs. Il les a utilisés comme messagers, comme éclaireurs, et il a vu qu'en leur confiant des responsabilités, ces jeunes se montraient à la hauteur de ce qu'on attendait d'eux et qu'ils étaient tout à fait capables de se prendre en charge. Et ça a été une première expérience qui a contribué à forger sa conception du scoutisme.
Oui, parce qu'il va s'inspirer de l'armée un peu pour organiser le scoutisme. D'ailleurs, c'est le mot scout, on l'oublie toujours, c'est un mot qui est d'origine militaire et même française, Marine Digabé.
Ça veut dire écouter, effectivement. Effectivement, l'éclaireur, c'est quelqu'un qui écoute, hein, et c'est aussi pour ça que la nature, c'est aussi important. On apprend à lire la nature, à repérer les traces des animaux, à bien écouter. On est ouvert sur son environnement.
Et c'est un mot qu'avait repris, parce que c'est un mot, vous dites, qui date du XIIe siècle, repris par les Anglais, comme beaucoup de mots français. Et justement, il y avait des scouts, hein, dans l'armée. Et c'est pas tout à fait la même chose, évidemment, qui va mettre en place. Alors, cette première expérience de 1907 dans l'île de Bansi, elle marche. Et puis, tout de suite après, elle marche surtout parce qu'un an après, il va publier un livre qui, au fond, définit les recettes, les règles du scoutisme, Scouting for Boys. Un livre, alors, qui paraît en 1908 est traduit aussitôt, presque aussitôt, dans plus de 20 pays, un succès énorme.
Oui, tout à fait. Le scoutisme commence à essaimer avant même la publication du livre. Baden-Powell avait déjà publié auparavant un petit fascicule à usage militaire et qui s'était répandu beaucoup plus largement. Le scoutisme rencontre une aspiration de la jeunesse. Hein. Et donc, dès l'apparition du livre, effectivement, c'est l'engouement, puisque en 1908, on a déjà 100 000 scouts, alors que Baden-Powell n'a pas particulièrement cherché à répandre le mouvement. Et ça se répand rapidement dans toutes les colonies britanniques, et puis très rapidement aussi hors de l'Empire.
Alors c'est effectivement, après 100 000 scouts en 1908-1909, le Le succès du scoutisme anglais intéresse d'autres pays, dont la France, où se rend Baden-Powell en 1936 pour le 25e anniversaire du scoutisme français.
Paris, 25 000 scouts célèbrent le 25e anniversaire de leur organisation et acclament Lord Baden-Powell, créateur et chef mondial du scoutisme.
Continuez à pratiquer votre scoutisme, non seulement pour la distraction et le plaisir que vous en retirez, mais pour la joie de lui consacrer tous vos efforts sous la forme de bonnes actions et d'amitié envers les autres.
Et c'était Baden-Powell en 1936, 25 ans après l'arrivée du scoutisme en France en 1911. Assez difficilement, Marine Digabel, vous le rappelez, au début, en France, on se méfie plutôt du scoutisme.
Alors effectivement, Baden-Powell étant un officier de l'armée britannique, forcément pour lui la religion est au cœur du scoutisme. Quand ça débarque en France juste après la séparation de l'Église et de l'État, on peut imaginer que ça n'a pas été tout seul. Les premières associations qui se créent sont d'ailleurs l'association laïque et une association protestante.
Oui, parce que même les catholiques s'en méfient, parce que c'est non seulement une association anglaise, mais c'est chrétien mais anglican, et les catholiques s'inquiètent beaucoup de l'arrivée, au fond, de cette méthode qui vient de l'Angleterre anglicane.
Voilà, c'est surtout les catholiques qui s'en méfient, et aussi parce que c'est une association où les laïcs ont une place importante dans l'encadrement des jeunes. Mais finalement, parmi les rangs catholiques, certains vont trouver un intérêt à la méthode scout, notamment le père Sevin, et c'est lui qui va finalement réussir à faire accepter cette méthode par le clergé, en montrant combien elle s'épanouit pleinement, je dirais, dans le catholicisme.
Puis ça vient d'un royaume, hein, les scouts anglais, ils prêtent serment au roi ou à la reine, en l'occurrence c'était à l'époque un roi. D'ailleurs je crois que la fleur de lys, qui était l'emblème des scouts anglais, n'est pas adoptée tout de suite en France.
Non, elle a été choisie par Baden-Powell en référence aux cartes géographiques, effectivement en France.
Mais en France ça pouvait faire de monarchie. Oui.
Voilà, tout à fait, donc certaines associations optent pour l'arc et la flèche par exemple, pour éviter de reprendre la fleur de lys.
Alors donc, récapitulons, premier mouvement scout en 1911, il est laïque, hein, les éclaireurs de France de Nicolas Benoît, 1912 éclaireurs unionistes, c'est-à-dire en fait d'inspiration protestante, ensuite scoutisme catholique, vous l'avez dit, également en 1920, quelque chose d'important, c'est qu'il se féminise, ce mouvement initialement prévu par Baden-Powell pour des garçons, Martine Digabel.
Marine Digabel. Effectivement, Baden-Powell n'avait pas du tout au départ envisagé d'ouvrir le scoutisme aux filles. Et puis, dès que le scoutisme commence à se répandre, les filles réclament le droit, elles aussi, de pratiquer le scoutisme. Et alors là, c'est encore plus révolutionnaire, parce que emmener des garçons campés, soit, mais des filles campées dans la forêt dans les années 10, on peut imaginer que c'était vraiment quelque chose.
C'était pas mixte, hein, rassurez-moi.
Non, c'était pas mixte.
Pas encore, ça l'est devenu, hein, je crois, plus
tard. Ça l'est devenu, ouais.
Et puis alors, aussi, il s'étend à d'autres religions, donc protestants, anglicans, catholiques, mais aussi en 1923, eh bien, il y a les éclaireurs israélites qui apparaissent. Plus tard, nous verrons également qu'il y a un scoutisme musulman, un mouvement scout en tout cas qui va être très sollicité pendant la guerre et pendant l'occupation par le régime de Vichy et par son chef, le maréchal Pétain, qui s'adressait aux scouts de France à l'occasion d'un pèlerinage de la jeunesse catholique au Puy-en-Velay en août 1942.
Scouts de France, mes jeunes amis, c'est sur la jeunesse et par la jeunesse que je veux rebâtir notre pays dans l'Europe nouvelle. Pour cette grande œuvre, je fais appel à tous les jeunes. Par votre exemple, par votre goût de servir, la chaleur de votre amitié, donnez à tous vos frères le désir de se rassembler. Montrez-leur le chemin de l'avenir, qui est celui de l'union de toutes les bonnes volontés, en vue du bien commun.
Bonne scout de France, déporte ta belle humeur, enseigne à tes frères la loi simple et claire, la loi de France et d'honneur. Tout en marchant, 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 et par les bois et par les champs, en servant les traces, le vol des oiseaux qui passent, et d'où vient le
Une chanson scout de 1920 et qu'on entendait peut-être aussi pendant la guerre. Vous le rappelez, Marine Digabel, pendant la guerre, le scoutisme français était évidemment sollicité par les autorités de Vichy. On vient de l'entendre, le maréchal Pétain lançant une espèce d'appel. Cela dit, vous le rappelez aussi, beaucoup de scouts, une partie des scouts en tout cas, ont été maréchalistes ou tentés par le régime de Vichy.
Effectivement, compte tenu du fait que le scoutisme est arrivé en France dans ce contexte très particulier de tension entre l'Église et l'État, ou en tout cas entre certains courants catholiques et l'État, il a finalement pris une direction qui fait qu'en 1940, beaucoup de scouts, se retrouvent et croient au renouveau maréchaliste. Donc c'est vrai qu'il y a une influence du scoutisme sur les organisations de jeunesse du régime de Vichy, ne serait-ce que parce que d'anciens scouts participent à l'organisation de ces mouvements. Ceci dit, les scouts de France refusent de devenir un organisme d'État.
C'est ce que voulait Pétain.
Oui, et il signe en 1940 un texte qui s'appelle la Charte de l'Oradou, qui est un texte assez étonnant, puisque c'est vraiment un hymne à la tolérance, à l'ouverture d'esprit. Les différentes associations se sont rassemblées, notamment les laïcs et les catholiques, et on reconnaît à chacun une liberté de croyance ou une liberté de ne pas croire. Donc c'est vraiment un texte tout à fait étonnant dans ce contexte où, au contraire, toute une partie du scoutisme croit au renouveau maréchaliste et entend bien aller dans la même direction. Et puis, au fur et à mesure, alors il y a aussi des engagements dans la résistance dès le départ, à titre individuel, notamment chez les éclaireurs israélites, on peut l'imaginer. Le scoutisme est interdit en zone occupée, il continue à se développer clandestinement et il se développe plus au grand jour en zone sud. Et puis progressivement, de plus en plus de scouts vont rejoindre les rangs de la résistance, mais toujours à titre individuel.
Un certain nombre d'entre eux d'ailleurs vont le payer, beaucoup de responsables sont arrêtés. On peut citer par exemple Robert Cassin, Dassler, qui était commissaire national adjoint des éclaireurs unionistes, qui a été emprisonné à Montluc, Pierre Delsuc, Pierre Goutet, aussi déporté à Buchenwald. Donc, au fond, le mouvement scout a été très partagé, un peu comme l'était la France, d'ailleurs, de l'époque.
Je crois qu'il est intéressant de remarquer que beaucoup de scouts se sont engagés, quel que soit le sens de leur engagement, ils ont pris position, ce qui n'a pas été le cas de tous les Français pendant la guerre. Voilà.
Quand vous dites quel que soit l'engagement, ça peut être aussi dans la collaboration à ce moment-là.
Alors non, en fait, c'est ça que je voulais dire pour terminer, c'est que si beaucoup de scouts ont cru au renouveau maréchaliste, aucune association et a priori vraiment très peu de scouts ont voulu collaborer et ont partagé les idées nazies. Hein. C'est vraiment plus, dans ce contexte de Vichy, croire à une certaine idée de la France, mais il n'a jamais été question de collaborer avec l'Allemagne.
En tout cas, c'est un scoutisme très éprouvé par l'occupation qui se reconstitue après la guerre, lorsqu'après la mort de Baden-Powell, il est mort en 1941, eh bien, sa veuve vient assister à la conférence mondiale du scoutisme féminin qui se tient à Évian en 1946.
Sur les hauteurs d'Évian, dans un luxueux hôtel dominant le panorama du lac Léman, s'est installée la 11e conférence mondiale du scoutisme féminin. Ici, des guides et des éclaireuses venues de tous les pays du monde et portant les uniformes les plus variés, toilettes blanches des brésiliennes ou costumes sombres des égyptiennes, se sont rencontrées pour tenter de rétablir entre toutes les jeunesses de tous les pays cette longue chaîne d'amitié dont avait rêvé Lord Baden-Powell.
Nous allons demander à Lady Baden-Powell, chef guide du monde et femme du fondateur du scoutisme Lord Baden-Powell, le populaire BP pour tous les scouts du monde, nous allons lui demander de lancer un message à tous les scouts, guides et éclaireuses du monde entier.
Les guides et les éclaireuses montrent la voie vers le développement de l'idée de la fraternité et bonne volonté dont le monde si triste a besoin. Je vous adresse à toutes un très cordial salut et je vous donne une forte poignée de main gauche.
Lady Baden-Powell demandant une forte poignée de main gauche. On salue de la main gauche chez les scouts ?
Alors, on salue de la main droite, on fait enfin, le salut scout la main droite. Scout, oui. C'est pourquoi on a besoin de serrer la main des gens de la main gauche.
Ah, ça, c'est une des originalités du scoutisme. Alors justement, ce qui frappe quand même dans le scoutisme, ce que retiennent aussi beaucoup d'anciens scouts ou guides comme vous, ce que retiennent aussi les gens qui ne le connaissent pas, les profanes qui voient ça de l'extérieur, ce sont toutes ces traditions. Alors, il y en a des plus ou moins importantes, mais il y a la plus importante, évidemment, je crois que c'est ça, c'est la promesse. Marine Digabel.
Oui, on retient peut-être un peu trop les traditions en ce qui concerne la promesse. C'est plutôt une bonne chose parce que c'est quelque chose de fondamental. Par la promesse, le jeune s'engage à faire de son mieux pour respecter un code de vie qui est celui de la communauté. C'est évidemment adapté à chaque âge. Aujourd'hui, chez les louveteaux, donc les 8-12 ans, ça fait référence à la bande de copains. Je vais être l'ami de tous. Je vais me laver. C'est vraiment du concret, du vécu. Donc c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Ensuite, en ce qui concerne le folklore, c'est vrai qu'on a en tête tout un tas de traditions scouts. Elles sont pour certaines encore représentées, mais je dirais que c'est très variable d'une association à une autre.
Il y en a une qui est amusante, c'est le totem. Hein. C'est le choix d'un animal, au fond, auquel on associe le scout. Alors, j'en avais cité quelques-unes ce matin chez Patricia Martin, Michel Rocard, hamster érudit, Jacques Chirac, bison égocentrique, Simone Veil, hein, qui était scout aussi, lièvre agité. Il paraît que ça n'existe plus.
Et non, ça n'existe plus. Voilà bien une idée qu'on a en tête à propos du scoutisme et qui est totalement fausse, hein. Ça a été complètement supprimé. Par contre, ce qui est amusant, c'est l'origine de cette totémisation. Baden-Powell, donc, qui avait beaucoup voyagé, s'est inspiré des rites des sociétés primitives pour le scoutisme, notamment les rites de passage de l'enfance à l'âge adulte. Et puis, quand le scoutisme a été importé en France, on a gardé une partie de ses traditions. Et puis, il y avait aussi le mythe du chevalier, les croisades.
Ah oui.
Il se trouve que c'est ça qui a pris le dessus en France dans les années 20 ou 30. Mais certaines autres composantes, comme les totems, ont subsisté.
Alors il y a aussi quelque chose évidemment qui les distingue des autres et qui donne un aspect paramilitaire au scoutisme, c'est l'uniforme et c'est la hiérarchie aussi, Marine Nigabel.
Oui, alors là encore, les choses ont beaucoup changé depuis 1907. C'est vrai que Baden-Powell était un militaire, alors il a forcément reconduit certaines des choses qu'il avait vues à l'armée, mais dans les codes militaires qui ont été conservés par le scoutisme, c'est surtout des codes qui permettent de vivre ensemble, hein, pour que ce soit pas l'anarchie la plus totale. De même qu'en colonie de vacances, il y a quand même des règles de vie en commun. Baden-Powell a dit lui-même que le scoutisme n'était pas une instruction militaire. Et de toute façon, il a envisagé les scouts comme des éclaireurs de paix. Donc il avait une vision pacifiste du scoutisme très très à cœur.
Oui, mais il y a quand même une hiérarchie. On s'y perd un peu pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est. On commence par être louveteau. Enfin, ça dépend bien entendu en plus des organisations.
Voilà, bon, il y a un découpage en tranches d'âge qui fait que les jeunes se retrouvent toujours entre jeunes du même âge à peu près. Ensuite, la hiérarchie...
Par exemple, vous qui l'avez été, alors ça commence par quoi ?
Alors moi, j'ai été Jeannette de 8 à 12 ans, puis guide, puis caravelle à partir de 14 ou 15 ans. Aujourd'hui, ça existe toujours au sein des scouts et guides de France. Les découpages en tranches d'âge ne sont pas tous les mêmes, effectivement, suivant les associations. Mais je dirais peu importe. Ce qui est important, c'est que dans chaque association, on passe d'une tranche d'âge à l'autre, on progresse, on acquiert des compétences. C'était quelque chose qui était aussi...
Et des responsabilités.
Et des responsabilités. Et on progresse. Et c'est important pour les jeunes de pouvoir éprouver cette progression. Et l'important, c'est que s'y retrouvent.
Et des traditions, en tout cas, qui vont évoluer avec, justement, la société dans les années 1960. Écoutez le porte-parole des Scouts de France à Serponçon, le 25 juin 1964.
Il est bien évident que le monde va de plus en plus vite. Et nous avons voulu donner aux scouts de nouvelles techniques, par exemple. En Baden-Powell, en 1925, a donné à ses scouts le moyen d'arrêter un cheval emballé avec un bâton. Il est bien évident qu'il n'y a plus de chevaux dans ces conditions-là dans les rues de France. Alors, mais qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des voitures, il y a des motos. Alors nous avons voulu donner à nos garçons, par exemple, des notions de mécanique. Et c'est pour cela que dans ce camp, nous avons absolument voulu avoir des chantiers. Et les scouts ont effectivement construit des ponts, ont aménagé des sentiers, ou même arrangé des chalets et des huttes des bergers de la montagne. Il y a aussi... La tenue ne vont plus la culotte courte et le chapeau. Nous avons la culotte longue et la chemise rouge, une chemise écarlate. Et puis même les chansons ont suivi une évolution. Va, va, ma petite Jeannette, tout ça, c'est parti. Nous avons des chansons beaucoup plus rythmées, avec de la guitare, bien sûr.
Ne tourne pas la tête.
Regardez en avant, au fond, c'est ce que fait le scoutisme, vous semblez le dire, Marine Nigabel. Aujourd'hui, dans les années 60, il y a eu un partage entre traditionnalistes et progressistes qui a pas mal secoué, enfin divisé le mouvement scout.
Effectivement, certains ont toujours à cœur de former un peu une élite, on va dire, parce que même si le scoutisme s'adresse à tous, comme il forme des jeunes gens bien, on peut considérer qu'il peut contribuer à former une élite. Et puis d'autres ont beaucoup plus à cœur de prendre pied avec, d'accompagner les évolutions de la société et de se définir avec la société plutôt qu'en marge. Ça donne lieu à des tensions, à des réformes. Tout ça, c'est compliqué. En plus, on est dans une association où les personnes ont beaucoup d'importance.
Oui, parce que c'est vraiment... Il y en a une quantité de mouvements scouts. On parle du scoutisme, mais il y a plutôt des scoutismes. Quand on voit en France, il y a d'abord, ça c'est assez ancien, mais la division entre plusieurs mouvements de confessions religieuses différentes. Hein, il y a les éclaireurs et éclaireuses de France qui sont laïcs. Bon, mais il y a aussi les scouts de France, catholiques, éclaireurs et éclaireuses unionistes qui sont d'inspiration protestante, éclaireurs israélites, les scouts musulmans. Puis il y a aussi des distinctions sur le plan politique. Par exemple, les scouts d'Europe sont considérés beaucoup plus à droite que les scouts de France.
Oui, enfin, c'est une association qui revendique son apolitisme, comme toutes les associations de scoutisme. Toutes ces associations qu'on a citées sont agréées par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc ça veut dire qu'elles obéissent à des règles très rigoureuses en ce qui concerne l'encadrement des jeunes, hein, et qu'elles jouent toutes le jeu de la démocratie dans laquelle on vit. Hein.
Alors, ça se voit d'ailleurs, cette différence, ces distinctions, dans la liste des anciens scouts. Moi, c'est ce qui m'a le plus amusé en lisant votre livre, c'est tous les anciens scouts. Alors, il y a pas mal de surprises. Alors, beaucoup. Alors, il y a l'abbé Pierre, hein, bien sûr, qui a disparu avant-hier, mais il y a aussi, alors, sur le plan politique, on voit que Édouard Balladur est un ancien scout, comme Jacques Chirac, comme Valéry Giscard d'Estaing, mais aussi Lionel Jospin, Michel Rocard. Et puis, alors, il y a également des artistes, hein, un certain nombre d'artistes, comme Audrey Tautou, Alain Souchon, Georges Moustaki, Richard Gotenet ou alors encore Gérard Jugnot, qui est l'auteur d'un film célèbre sur les scouts en 1985.
Faudrait peut-être leur organiser un jeu. T'en connais un bien, toi ?
Je sais pas ce qui manque.
C'est pas compliqué. Chaque patrouille doit me rapporter une racine de réglisse sauvage, un silex, une branche de châtaignier, un bouquet de violettes. La patrouille qui me rapporte cette liste la première sera dispensée de corvée pendant toute la journée. Rendez-vous au point alpha.
C'est quoi le point alpha ?
C'est très simple. Vous marchez d'abord 10 km. Azimut 85 grades. C'est l'ouest. Je vous donne un indice. Ce sont des gorges très encaissées.
Dites, s'il y a des blessés, on les achève ?
Et j'espère que vous allez en chier. En marche !
C'est la faute aux Impalas, tout ça.
On dit ça chez les scouts, j'espère que vous allez en chier, Marine
Dicabel. Alors, on me l'a jamais dit, ceci dit, je suppose qu'il y a des ados, que ça peut motiver ce genre de commentaires.
Alors c'était scout toujours, alors c'était Jugnot, hein, qui est un ancien scout, c'est vrai que quand on a été scout, on est scout toujours, hein, on a l'impression. Alors, j'ai pris cet extrait parce qu'il s'agit d'un jeu, mais des jeux ça peut tourner mal. Et vous le rappelez, Marine Dicabel, à partir de 1998, il y a eu une quantité d'accidents qui ont vraiment terni un peu ce qu'était le scoutisme. On n'a parlé que de ça dans la presse, il y a eu évidemment l'affaire de l'abbé Cottard, et puis ces scouts marins qui sont morts au large de Perros-Guirec, et puis ensuite d'autres accidents, des scouts écrasés par une meule de foin. Et donc c'est vraiment, là vous dites, ça a effectivement joué, ça a été une série noire pour les scouts.
Oui, une série noire, et qui n'est pas de la faute des scouts. Hein. D'abord, l'abbé Cottard, c'était une association qui n'était pas reconnue par le ministère de la Jeunesse et des Sports.
Et qui s'appelait Scout Marin.
Oui, parce que l'appellation scout n'est pas déposée en France. Donc demain, si vous, Patrice Gélinet, vous voulez monter une association de scouts, vous êtes tout à fait libre de le faire. Parmi ces associations non reconnues, certaines font un travail de qualité, d'autres pas. Ensuite, effectivement, il y a eu toute une série d'incidents. Tous ont fait l'objet d'enquêtes. Quand il a été nécessaire de fermer les camps pour la sécurité des enfants, ou de façon préventive, ça a été fait. Dans certains cas, on a reconnu que les associations n'étaient en rien responsables. Et ça a encore accru la vigilance du ministère de la Jeunesse et des Sports auprès des associations de scoutisme. Mais vraiment, aujourd'hui, les règles qui s'appliquent, il y a certaines dérogations propres à l'activité de plein air qu'est le scoutisme. Mais sinon, les règles d'encadrement sont vraiment très strictes et ont pour objet de garantir la sécurité des enfants.
Vous semblez dire que ça a quand même pas mal nuit à l'image du scoutisme et peut-être aussi à son recrutement. Est-ce qu'on envoie aussi volontiers aujourd'hui ces enfants chez les scouts ou est-ce qu'ils y vont aussi volontiers qu'autrefois ?
Ils y vont s'ils ont des copains qui sont scouts. C'est vrai que les chiffres ont baissé. Ceci dit, c'est une méfiance des parents qui est à l'égard de l'ensemble des activités de jeunesse parce qu'il n'y a pas que chez les scouts qu'il y a eu des incidents. Donc aujourd'hui, 2 à 3 millions d'enfants vont en centre aéré. 1 million partent en colonie de vacances, donc dans des centres avec hébergement. Parmi ceux-là, pas loin de 150 000 scouts. C'est pas anecdotique par rapport aux enfants qui partent en colo. Mais c'est vrai qu'à l'échelle de la France entière, ça reste assez marginal, ceci.
J'ai eu 25 millions d'anciens scouts en France. Cela dit, il faut rappeler 500 millions dans le monde entier. On a parlé un peu que de la France, mais c'est vrai que c'est un mouvement international. Je crois même que le pays où il y a le plus de scouts, c'est l'Indonésie.
Oui, alors c'est sûr que toutes ces divisions dont on a parlé, c'est très franco-français. Et à l'échelle mondiale, le scoutisme marche bien. Ses effectifs ont doublé dans les 20 dernières années. La dimension de fraternité, d'éducation à la paix est extrêmement importante et va être mise en avant pour ce centenaire.
Merci en tout cas de nous avoir parlé, Marie Desgavel. Je ne vous ai pas coupé, mais on arrive de toute façon au bout de l'émission. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre « Scout, une piste pour grandir », publié aux presses de la Renaissance, justement pour le centenaire du scoutisme. À lire aussi « L'utopie des scouts de France », un livre plus ancien de Christian Guérin, édité chez Fayard. Vous avez pu entendre deux extraits du film « Scout toujours » de Gérard Jugnot, édité en DVD aux éditions Film 7 Arturo Productions. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Olivier Riotor, Michel Bézikian, documentation et archivina Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Catherine Louis, une réalisation de Anne Kobilac. Demain dans 2000 ans d'histoire, maîtresse puis ensuite épouse de Louis XIV, Madame de Maintenon.